Depuis l'apparition de ce qu'on appelle la cybersécurité, les États-Unis et la Russie se livrent une guerre d'information. Il y a une longue tradition au côté soviétique de ça. La manipulation de l'information est une caractéristique des systèmes totalitaires. Il y a un héritage d'action d'État, on peut dire. Cette guerre de l'information, elle continue dans l'âge digital avec un conflit dans la sphère de la cybersécurité. Rappelez-vous que les États-Unis avaient été aussi accusés par les Russes de manipulation d'opinion lors de la révolution orange à Kiev. Donc il y a cette paix froide qui se poursuit entre les deux. D'une certaine mesure, on peut considérer que c'est une bonne guerre, que c'est un petit peu fatal dans l'ajustement général qui, depuis la fin de l'Union soviétique, domine les relations entre les États-Unis et la Russie qui n'ont, depuis ces 20 dernières années ou plus, prouvé encore leur étalonnage. Et donc, ces accusations d'espionnage et de manipulation d'informations n'ont rien de surprenant de part et d'autre. Ce qui est un niveau d'intensité plus important, c'est le caractère intrusif dans le système politique américain à l'occasion de cette élection, de ces attaques, qui en effet est amplifiée aussi par les déclarations intempestives d'un des deux candidats, en l'occurrence Donald Trump, sur le hacking du serveur du Département d'État attribué à la Russie. Le sujet est entré en campagne, a été repris, instrumentalisé à son avantage. Je vais dire finalement, c'est ce qu'il y a de plus surprenant.
Le directeur de campagne d'Hillary Clinton a expliqué qu'il y avait des raisons de croire que finalement la Russie voulait placer Donald Trump pour en faire le président des États-Unis. Est-ce que c'est crédible ?
Non, je pense que c'est un pas à ne pas franchir que de considérer que nécessairement l'élection de Trump, du fait de ses déclarations de relative sympathie, d'ouverture par rapport non seulement à la Russie mais surtout à son président, conduirait nécessairement la Russie à vouloir souhaiter et œuvrer pour une élection de Donald Trump. Je pense que c'est bien loin des réalités et certainement aussi de la réelle influence, y compris dans le domaine de la cybersécurité de la Russie. Par ailleurs, il n'est pas certain, compte tenu de ces déclarations, que les relations entre un président Trump et la Russie de Poutine seraient nécessairement meilleures, puisqu'il n'y a pas véritablement de vision et d'orientation construite de la part de Trump, et qu'à l'inverse, l'expérience des 8 années d'Obama, et notamment l'échec du reset américano-russe de la première mandature d'Obama, pendant laquelle Hillary Clinton était le ministre des Affaires étrangères, n'indique pas non plus qu'on ne saurait pas, demain, avec une présidente Clinton, approcher sur un autre pied le sujet russe, et sous la pression des événements extérieurs, le dossier nucléaire nord-coréen, la stabilité au Proche-Orient, la question du terrorisme islamique, arriver à une coopération plus efficace. Donc je ne crois pas qu'on puisse facilement conclure qu'il y aurait une préférence nette pour l'un ou l'autre par rapport à l'évolution des relations américaines-russes, même si, en effet, on peut penser que, à première vue, la victoire républicaine aux élections présidentielles serait peut-être souhaitée par la Russie, y compris parce que nécessairement elle affaiblirait aussi les États-Unis compte tenu du manque de vision construite, d'expérience de l'appareil d'État du candidat républicain.
Mais déjà aujourd'hui, on a l'impression d'une administration Obama bien impuissante par rapport aux ambitions russes. On l'a vu en Ukraine, mais on le voit aussi évidemment avec la Syrie.
Oui, la différence entre les deux, c'est que la Russie s'est mobilisée sur le terrain, à la fois en Ukraine et en Syrie, et en l'occurrence en Syrie, avec une vision, et beaucoup, y compris d'hommes politiques français par exemple, le reconnaissent, une vision assez juste. Celle qui consistait à privilégier la stabilité et la lutte contre le radicalisme. Alors, leur déploiement des moyens russes fait qu'ils sont en quelque sorte un coup d'avance par rapport à la ligne rouge qu'avait édité le président américain, qui, une fois cette ligne-là franchie par le régime, n'a pas été en mesure d'agir, puisque les Américains n'étaient pas du tout disposés à envoyer des troupes au sol en Syrie. Quant à la question ukrainienne, elle a été sans doute exécutée de manière assez décisive et, on peut dire, brutale et maladroite par la Russie, regard notamment du droit international, mais on peut aussi être amené à penser que, sur le fond, il y a certains arguments qui sont pertinents, c'est que d'autre part, il était évidemment hors de question de déclencher une opération militaire sur le territoire russe par les États-Unis et moins encore par l'Alliance Atlantique. Donc à l'évidence, les Russes ont occupé que les Américains n'étaient pas en mesure, ou n'ont pas voulu, dans le premier cas, la Ukraine, dans le deuxième, la Syrie, occupée. Et que donc, évidemment, en termes d'efficacité diplomatique, l'évolution des choses tourne à l'avantage de la Russie.
De quels moyens de pression disposent les États-Unis pour faire infléchir Moscou en Syrie, justement ?
Je craint qu'il ne dispose que de très peu de moyens, étant donné la volatilité et l'immédiateté, l'urgence de la situation sur le terrain.
Donc l'avantage est totalement du côté russe en ce moment.
Oui, puisqu'une fois de plus, les Russes sont déployés, ils sont actifs sur le terrain, et une vision claire, sans ambiguïté, de ce qu'il faut faire, et ils sont donc, semble-t-il, disposés à mettre en œuvre les moyens pour atteindre leurs objectifs, avec pour priorité la stabilité politique en Syrie et la lutte contre le radicalisme.
Donc l'ère où les États-Unis étaient le gendarme du monde est en quelque sorte finie ?
Il y a sans doute une révision, et les premiers discours d'Obama après son élection, qui voulait refonder un peu la relation de l'Amérique au monde, poser un cadre général. Et c'est par ailleurs l'orientation des événements avec relative fragmentation politique internationale et des alliances parfois contradictoires, mais de circonstances qui entravent les objectifs définis par les États-Unis. Il y a des visions concurrentes des priorités de la coopération internationale, et donc par définition, il est établi que les États-Unis ne pourront plus et ne souhaitent pas nécessairement avoir la même latitude que par le passé en termes d'action internationale.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même quand même un paradoxe entre le désengagement militaire souhaité par tous et le rêve d'une grandeur retrouvée pour l'Amérique ?
Il y a clairement le fait que les États-Unis sont depuis quelques années dans une phase d'avantage de redistribution de leurs priorités. La priorité numéro un est celle de la stabilité, l'ajustement en Asie-Pacifique, donc c'est-à-dire face à la Chine, à la fois un volet économique et un volet stratégique, qui inclut le dossier nucléaire nord-coréen et la prolifération, par exemple. Ensuite, l'opinion et les dirigeants américains ne sont pas disposés à des aventures militaires. Obama a énormément freiné de ce côté-là, mais les orientations de la politique étrangère des États-Unis à l'appui de cette réduction de l'engagement extérieur des États-Unis leur a fait commettre des erreurs, et notamment on vient en parler en Syrie, puisqu'il y a une contradiction tout de même entre ne pas être prêt à déployer des troupes et mettre des orientations qu'il exigerait, tandis que d'autres comme la Russie, plus cohérents dans le déploiement des moyens à l'appui de leur politique, démontrent une présence et remplissent leurs objectifs. Donc il y a effectivement cette contradiction. Une politique étrangère américaine sous Obama, dont les résultats sont contrastés de ce fait, qui font apparaître une relative faiblesse, alors que par ailleurs, il y a des succès diplomatiques de cette présidence Obama, comme le dossier iranien. Les États-Unis sont dans une période, je dirais, d'ajustement de leur leadership international, dans un contexte qui change, du fait de l'émergence, par exemple, de la Chine et des agissements de la Russie, et qui n'a pas encore trouvé son point d'équilibre, si bien même il y en a un